l'Agora des Savoirs. Des conférences ouvertes à tous. Une initiative de la ville de Montpellier en partenariat avec Divergence FM.
Quand on m'a demandé effectivement de remplacer Monsieur Le Quellec, j'avais le choix entre deux possibilités. Effectivement, évoquer ce dernier ouvrage sur la préhistoire du cinéma qui me tient très à cœur dans la mesure où c'est 20 années de recherche qui soit ici publiée. Mais bon, étant donné qu'effectivement je fais cette présentation dans une semaine à la médiathèque Émile Zola, je trouvais beaucoup plus intéressant dans le cadre de l'Agora des Savoirs de vous parler d'une petite grotte languedocienne donc, qui est située dans le Gard et qui, à l'heure actuelle, est assez intéressante à évoquer par rapport à l'actualité, notamment du classement, enfin, de la proposition de classement UNESCO de la grotte Chauvet. Et également, bon, c'était aussi un sujet qui, personnellement, me tenait à cœur dans la mesure où j'ai repris l'étude de cette grotte en 2008 et que je suis assez militant pour faire la promotion de la préhistoire dans une région qui, habituellement, est plutôt tourné vers l'Antiquité et le Moyen-Âge. Donc, à partir de là, le titre que j'ai choisi donc, au dernier moment, suite à la proposition qui m'a été faite, de parler de petite grotte Chauvet avec un point d'interrogation, dans la mesure où, à l'heure actuelle, en fonction des travaux qui sont effectués dans cette grotte, on a de plus en plus la confirmation qu'on est face à un art très très ancien, que l'on peut donc classer dans la période dite de l'Orignacienne, donc qui correspond à la période donc des artistes de la grotte Chauvet. Donc cette recherche, je la dirige donc depuis 2008 en collaboration avec deux chercheurs, Bernard Gély de la DRAC Rhône-Alpes et Raphaël Bourillon, donc qui est postdoctorante à l'université de Toulouse-Le Mirail. Donc, bon, dans un premier temps, je remercie assez rapidement les partenaires grâce à qui cette étude a pu se faire. Donc, la mairie de Russan-Saint-Anastasie, qui est propriétaire de la grotte. La DRAC, évidemment, Languedoc-Roussillon, qui m'a autorisé à reprendre ces études. La région Languedoc-Roussillon, le conseil général du Gard, et évidemment, mon laboratoire de Toulouse-Le Mirail, Trace. Alors, Baume-la-Trône, donc, une grotte à redécouvrir. Pourquoi ? Parce que c'est une grotte qui a été découverte dans les années 40. Enfin, la partie pariétale a été découverte dans les années 40. C'est une grotte qui était connue depuis la fin du 19e siècle, mais dans laquelle on n'avait pas trouvé grand-chose. Enfin, bon, au niveau du porche d'entrée, quelques silex et des céramiques, mais rien de bien spectaculaire. Donc là, vous voyez le porche d'entrée, la vue depuis le porche d'entrée de la cavité, donc sur un méandre du Gardon. On est à l'entrée des gorges du Gardon, au nord de Nîmes. Alors là, vous voyez une des deux entrées de la grotte. On entre par cette cavité, par cette espèce de double entrée. Donc vous voyez que on voit en bas à droite une partie donc des gorges du Gardon. Alors c'est une grotte qui est assez profonde et les dessins se situent à environ 240 mètres de l'entrée. Vous avez l'entrée donc qui est située en bas et vous avez donc la zone décorée qui est là. Donc en 1940, un petit groupe de lycéens nîmois a pénétré dans la cavité et à 80 mètres de l'entrée a désobstrué une chatière qui a permis... c'est-à-dire une étroite galerie qui permettait à partir de là, qui était obstruée par de l'argile, et qui conduisait à partir de là dans la galerie profonde de Baume-la-Trône. Donc en suivant ce parcours, ils ont découvert donc, la zone décorée qui est concentrée dans ce qu'on appelle la salle Bégouin, du nom du préhistorien qui va conduire l'étude à partir de cette année-là. Hop. Voilà. Donc la découverte, une fois la découverte effectuée, le comte Bégouin, donc, qui est un des pères de la préhistoire, conduit une équipe dirigée par l'abbé Glory, qui est alors à ses débuts, qui est un archéologue qui va participer à l'étude de la grotte Lascaux quelques années plus tard. Et donc l'abbé Glory et un collègue à lui qui s'appelle Paul Fitt vont effectuer donc, la première étude de cette cavité. Vous avez une photo d'époque où l'on peut voir donc le cœur de la zone décorée qui correspond donc au grand plafond, à une zone décorée. Bon, on ne voit pas très bien là sur ces photos, on y reviendra, mais vous avez plusieurs images sur un ensemble qui fait entre 10 et 15 mètres de développement. Donc voilà une vue assez ancienne. Donc là, vous voyez donc l'abbé Glory qui est présent au milieu donc des fouilleurs de l'époque, en contrebas donc de la zone décorée qui est située entre 1,50 m et 2,50 m de haut par rapport au sol. Donc là, on est au cœur, entre guillemets, du sanctuaire d'art pariétal. Alors là, sur ces deux photos, vous pouvez voir deux points de vue. Un point de vue donc, des années 40 et un point de vue qui correspond à l'année 2009. Alors vous voyez qu'en dessous de la zone décorée principale, le sol a été décaissé et les remblais ont été dispatchés de part et d'autre de cette zone-là. Ça correspond à des fouilles qui ont été effectuées en 1946, d'après les écrits. Et enfin, une partie seulement. Et ensuite, ça correspond à un décaissement plus important qui a été fait avant 1968 pour éviter justement l'accès à la paroi ornée qui a subi, à partir du moment de sa découverte jusque dans les années, à la fin des années 70, pas mal d'aléas et notamment d'actes de vandalisme. Alors, je vais évoquer maintenant plus en détail l'ensemble de la décoration de cette cavité, donc l'art pariétal, l'art sur paroi. Alors, l'ensemble de la zone décorée de la salle Bégouin correspond actuellement, on voit l'inventaire en dessous, qui est un inventaire en cours dans la mesure où l'étude est en cours de finition, mais on a encore une ou deux années à effectuer sur le terrain. On en est à 34 figures inventoriées, sachant que vous avez au-dessus, à titre indicatif, les inventaires correspondant donc à la première période de l'étude, et puis à d'autres périodes de l'étude. Et vous voyez qu'il y a environ une douzaine de mammouths, un grand félin, on y reviendra en détail, et d'autres figures qui sont plus ou moins élaborées. Alors quand on arrive donc dans le secteur décoré, en premier lieu, on est face à un panneau qui est assez problématique à l'heure actuelle, dans la mesure où il a subi pas mal d'actes de vandalisme qui correspondent à des raclages, des lancements de boulettes d'argile faites sur la paroi, et toutes sortes de graffitis qui sont venus polluer la décoration. Mais là, vous avez un panneau qui est constitué de mains positives, c'est-à-dire des mains qui ont été enduites d'argile et qui ont été frottées sur la paroi ou glissées ou alors posées, donc qui correspondent à des motifs d'art pariétal que l'on connaît communément, notamment dans la grotte Chauvet, mais qui sont dans ce cas précis constitués donc d'un dépôt d'argile sur la paroi. Ça, dans d'autres cas, effectivement, ça correspond à du pigment rouge qui est projeté ou qui est soufflé dans le cas des mains positives sur la main, quoi. Mais donc là, premier ensemble décoré avant d'arriver donc face au dessin que nous avons entrevu précédemment, donc un panneau de main. Donc vous allez voir le détail. Donc là, vous avez, vous voyez, des frottements anciens qui correspondent à une couleur limoneuse assez claire, puis des frottements assez récents qui semblent avoir repris le tracé, qui correspondent à des glissements, vous voyez, d'argile. On voit bien les doigts là qui ont glissé, et tout ça est superposé de gravures encore plus modernes, mais tout ça correspond à des successions d'actes de vandalisme plus ou moins situés entre donc les années 40 et les années 70, quoi. Un autre endroit plus à gauche, où vous voyez carrément, apparemment il y avait une main en dessous qui a été là carrément raclée à maintes reprises, puis vous voyez des graffitis 1964 fait, qui viennent vraiment témoigner de la bêtise humaine en ces lieux qui s'est poursuivi pendant malheureusement quelques décennies. Donc c'était vraiment pas gagné de reprendre l'étude de cette grotte, sachant que cette étude, pour repréciser un peu tout cela, correspondait à la volonté aussi par rapport aux années 40 où on utilisait des techniques de relevé qui correspondaient donc à leur époque, qui étaient du relevé sur calque assez rapide. Donc ça correspondait à une volonté d'utiliser les technologies actuelles et en partie le scan 3D, comme vous allez le voir un peu plus loin, pour essayer d'enregistrer avec un maximum de précision ce qu'il restait entre guillemets de l'ensemble de la décoration, et aussi avec une volonté d'archiver tout ça quelque part pour les générations futures. Alors voilà donc le chef-d'œuvre de la grotte, entre guillemets, qui correspond donc à un ensemble qui fait entre 10 et 15 mètres de développement, qui est sur une paroi subplafonnante et sur laquelle donc, vous voyez des figures assez étranges, d'où le sous-titre de cette intervention. Donc, pour aller assez rapidement dans un premier temps, donc vous voyez cette espèce de figure serpentine de prime abord, qui correspond en fait à une figure assez schématique de félin, et tout autour des figures plus ou moins déformées, expressionnistes, qui sont en fait des représentations très stylisées de mammouth. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors, cette diapositive, pour vous montrer à quel point les figures ont vraiment subi toutes sortes d'altérations. En haut, vous voyez donc l'état des images avant une campagne de nettoyage qui a été effectuée en 1982-1984, et qui a consisté donc à lever un maximum d'altérations qui pouvaient être enlevées, c'est-à-dire des boulettes d'argile, ce genre de choses, avec bistouri, des scalpels, enfin des tampons qui ont permis d'enlever au maximum ces altérations, sachant que des altérations beaucoup plus dures, qui correspondent donc à des gravures enfin, modernes, etc., n'ont pas malheureusement pu évidemment être enlevées. Mais bon, c'était la seule véritable fois où on a entrepris de nettoyer une grotte ornée, dans le sens où elle était vraiment dans un sale état. Donc on a estimé en 1982-84 qu'il était donc possible d'essayer d'utiliser un maximum de techniques pour redonner son éclat à cet ensemble qui était quand même assez particulier par rapport au style de l'art pariétal tel qu'on le connaissait alors, différents styles. Donc une composition, une véritable composition qui, selon moi, est vraiment aux origines aussi de la narration graphique. Bon, c'est un sujet qui fait partie du développement de mon dernier livre et qui consiste à bien associer donc les origines de l'image aux origines de la narration graphique, c'est-à-dire tout simplement dire que l'image sert d'emblée à raconter et à exposer des mécanismes de narration qui vont permettre à l'homme justement de propager ou de diffuser certains mythes ou traces de religion, enfin expression de religion, peu importe, mais qui fait que donc l'image est d'entrée un médium de communication, évidemment, un véritable médium. Donc on a une véritable composition dans le sens où donc on a cette figure de félin qui est vraiment placée au centre et qui semble propager la dispersion des différentes figures qui sont autour et qui sont plus ou moins représentées de façon expressive. Enfin, là, on a on le voit pas très bien, mais bon, on a un mammouth avec les défenses représentées de part et d'autre, qui est probablement en train de barrir, puis un autre mammouth qui est en train de fuir vers la gauche. Donc on voit bien que de bas en haut, on a une expressivité des figures qui va grandissante, avec au centre ce félin qui est vraiment démesuré par rapport à ce troupeau de mammouths, hein, donc des animaux dangereux dans les deux cas, mais vraiment une volonté d'amplifier à la fois la forme et la taille de cet animal qui est comme évidemment le prédateur par excellence et qui ose entre guillemets s'attaquer à ce moment-là un troupeau d'animaux également dangereux, un troupeau de mammouths. Donc ça peut paraître étrange de voir ce type d'action, mais c'est vrai que bon, on sait malgré tout par l'approche du comportement animal qu'il peut arriver dans certains cas que des lions d'Afrique actuelle s'attaquent à ce genre d'animal. C'est rare, mais en période évidemment de disette, il peut arriver que les prédateurs s'attaquent à ce genre d'animal. Ce qui confirmerait aussi la découverte, enfin, l'interprétation récente d'une scène un peu comparable dans une grotte du Lot, une découverte qui a été faite par une interprétation qui a été faite par Michel Orblanchet, un préhistorien spécialisé dans l'étude de l'art pariétal, qui a également constaté qu'un troupeau de lions avait été représenté en train de poursuivre donc des mammouths. Donc on a des bases de comparaison à une époque qui est globalement la même. Donc là, on a zoomé un peu vers le centre de cette composition et on voit donc cette fameuse représentation de félin à tête serpentine. On a vraiment l'impression, dans un premier temps, qu'on est face à un serpent avec la langue qui sort. En fait, bon, c'est plus une vue très stylisée d'un crâne de félin qui est vu de côté avec les crocs, vous voyez, au tamba. Et là, probablement le souffle qui exprime le rugissement. Donc, un style très, très expressionniste, donc qui est là vraiment fait pour traduire le rugissement de l'animal. Donc, et après, une silhouette qui est assez fluctuante, donc une ligne assez fluctuante qui représente la ligne de dos. Donc un style atypique, effectivement, qui est assez expressionniste et une technique originale dans le sens où elle correspond à des tracés qui sont exécutés donc à l'argile avec la main, à même la paroi, c'est-à-dire que la main des artistes de l'époque était enduite d'argile qui était prélevée au sol ou plus certainement au niveau des joints de strates, enfin, des fissures de la paroi. Et donc la main devenait à ce moment-là un véritable pinceau et servait à appliquer le pigment naturel sur la paroi. Et donc les gestes étaient très amples, comme vous pouvez le voir. Donc du coup, cela explique un peu ce côté très expressionniste, très moderne d'aspect par rapport à cet art, qui fait aussi que l'identification dans un premier temps n'est pas toujours facile. Il faut vraiment rentrer dans cette forme-là, pour cette expression-là, pour vraiment interpréter dans un deuxième temps les différentes formes que nous allons voir maintenant. Donc là, vous avez carrément, en deux, trois gestes, une silhouette de mammouth qui a été exécutée. Donc là, vous avez la trompe, la tête, qui correspond donc à un épaississement du trait. Là, vous avez la main qui a trois, quatre doigts, donc qui a dessiné le poitrail, le dos. À deux, trois reprises, la main est passée pour dessiner le dos. Puis après, l'arrière-traîne de l'animal. Donc là, vraiment, on est à limite figurative vraiment de ce style-là. Et comme on peut le voir sur cet ensemble, et ce qu'avait constaté le préhistorien, entre autres, Laurent Gourin, enfin, les préhistoriens, et en particulier Laurent Gourin, on a vraiment plusieurs stades de figuration qui sont présentés à travers cette composition. Donc une autre figure aussi très, très, très schématique, où là, carrément, on a une forme en arc qui correspond à l'arc ventral typique des représentations de mammouth paléolithique, où là, vous avez carrément deux, trois allers-retours, la silhouette du mammouth qui est ébauchée avec la trompe qui est là et la queue qui est là. Donc là, je commence par des figures assez abrégées. Un stade beaucoup plus évolué en termes de figuration, qui correspond donc à une gestuelle beaucoup plus marquée et intense. Donc toujours la représentation qui démarre par la tête. Et là, vous avez carrément une trompe énorme, complètement enroulée, avec les doigts là, qui apparaissent au niveau de l'extrémité de la trompe. On suit bien, vous voyez, le geste là, de la main avec des reprises, etc. La ligne de dos, donc l'arrière-traîne, la queue, et puis les pattes et l'intérieur du corps qui est représenté. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est de constater qu'on est face à un art a priori vraiment des profils absolus, avec une paire de pattes, une patte par paire représentée, donc quelque chose d'assez a priori abrégé en termes de représentation. Mais on voit de temps en temps sur certaines figures la jonction de détails comme les défenses ou ces petits détails, vous voyez les doigts au niveau des trompes, qui sont vraiment des choses très très naturalistes pour une mise en forme qui, elle, plutôt a tendance schématique. Donc on est vraiment dans un contexte naturaliste du fait de l'existence de détails anatomiques précis, mais le contexte général de représentation est lui plutôt à tendance schématique. Probablement du fait aussi de l'utilisation de cette technique d'exécution. Donc là, un animal qui est très très problématique, on y reviendra, donc une silhouette avec le dos, la tête qui est là, des oreilles de part et d'autre, et puis bon, la queue, les membres ou le membre qui sont figurés de part et d'autre du corps, et peut-être la jonction d'une corne. Alors on ne sait pas à la sortie s'il s'agit d'une représentation de cheval qui a été reprise pour être transformée en mammouth ou en rhinocéros, avec donc ces deux oreilles de part et d'autre, donc une figure assez complexe qui pour l'instant échappe à la détermination et puis qui a été altérée, comme vous le voyez, à main endroit, sachant qu'on a encore des traces, par exemple, d'ours des cavernes, on a des griffates qui se superposent, qui témoignent aussi du passage de l'ours dans la grotte, tout au long de la progression dans la grotte. On a sur la paroi, enfin, à différents endroits, des traces du passage donc, de l'ours des cavernes et également des vestiges de bauge, c'est-à-dire de cuvette dans laquelle l'ours allait dormir, et également des vestiges osseux à certains endroits. Donc l'ours des cavernes était présent aussi dans cette cavité. Alors, cette figure, qui est également une figure de mammouth, a été dans un premier temps carrément interprétée comme un crabe ou une araignée. C'est vrai que là, comme je vous disais tout à l'heure, il faut vraiment s'adapter au style étrange de Baume Latrone. Donc là, vous avez la trompe donc, qui est dessinée en plusieurs coups de passage de main à 2-3 appuis de doigts, hein, comme on peut le voir. Les défenses qui sont vues de face, comme sur une présentation cubiste, donc avec des choses très, très modernes au niveau de la représentation, la tête qui correspond à cet épaississement, avec la bouche qui est entrouverte, enfin, qui peut être là ou là, et le poitrail, donc, et le corps qui est lui à peine ébauché. Alors là, carrément, la ligne ventrale est absente. On voit bien que l'artiste s'est surtout préoccupé de représenter donc, le barissement de l'animal avec la tête qui est bien relevée. Donc, absolument pas un style maladroit, c'est vraiment un style à tendance expressionniste. L'artiste qui fait ça n'est pas obligatoirement dénué de talent, hein. C'est un peu quand on critique Picasso dans sa dernière période, on a toujours tendance à rabaisser ça à quelque chose de très fru, de très enfantin ou de très fru. C'est plutôt une tendance à l'abréviation qui est également ici en action à travers ces images. Donc une représentation qui est plus là pour exprimer un mouvement et une expression de type naturaliste qui est visible dans la nature, donc le barrissement de l'animal, et qui a du sens par rapport à la globalité de la composition, où on aurait donc un félin qui s'attaquerait à ce genre d'animal, donc des animaux plutôt en action, agressifs, en fuite, etc. Donc quelque chose de très, très cohérent. Alors cet art, comme souvent dans l'art des cavernes, tient compte évidemment des reliefs de la paroi, dans la mesure où l'art des cavernes, c'est un art fait d'ombre et de lumière qui joue donc des reliefs à travers les flammes aussi des lampes à huile ou des torches qui permettent de faire fluctuer les formes naturelles. Et là, on le voit dans un premier temps, mais on le verra un peu mieux dans un second. Vous avez carrément les reliefs de la paroi qui ont guidé la représentation du mammouth. Donc vous avez le mammouth qui est là, on ne le voit pas très bien, mais qui est là, et vous voyez très bien, grâce à l'éclairage qui permet de faire ressortir les ombres de la paroi, que la silhouette suit donc les reliefs naturels de cette paroi. Donc les artistes savaient parfaitement inscrire les figures en tenant compte de ces impératifs, et comme vous le voyez, donc ce sont des représentations qui ont été faites relativement rapidement. Il y a très peu de reprises. Les artistes qui ont représenté ce genre de choses savaient très bien ce qu'ils faisaient, savaient où ils les faisaient, et les faisaient probablement très rapidement, tenant compte de leur éclairage, qui était loin d'être aussi perfectionné que le nôtre, mais qui, par contre, avait la propriété d'être beaucoup plus animé. C'est vrai que quand vous découvrez ce genre d'image avec des lampes froides ou chaudes fixes, vous n'avez pas la même impression que pouvait l'avoir un artiste ou un visiteur préhistorique qui lui avait un éclairage beaucoup plus animé, quoi. Donc qui jouait beaucoup plus, qui interférait beaucoup plus avec les formes du relief et qui donc quelque part donnait vie à ces images. Donc là vous avez une vue pareille, un peu en biais de trois quarts, où vous voyez donc ces reliefs très forts qui ont guidé. Donc vous avez la trompe du mammouth qui est là, la tête qui est là, le dos, la queue, puis les membres. Vous voyez, donc on voit bien que ce bord a servi à structurer l'image. Et ça, vous le retrouvez sur l'ensemble du grand plafond et de manière générale dans l'art pariétal. Alors la composition même de ce grand plafond, elle est probablement de type circulaire avec, comme je l'ai déjà dit, donc la position centrale qui est marquée par ce félin qui fait environ 2,50 m en développement, et donc des figures qui autour sont des figures de mammouth entre 1,50 m et 1 m. Donc, et vous voyez donc de bas en haut cette volonté donc de traduire un crescendo qui va vers carrément la fuite de ce mammouth et celui-là qui est en train de barrir, ou peut-être d'affronter un autre mammouth. Donc on a, là, sur le schéma, c'est pas indiqué, mais on a un tracé qui pourrait correspondre à l'arrière-train de notre mammouth qui ferait face à celui-là. Donc une micro-scène à l'intérieur d'une composition à caractère dramatique. Alors il y a d'autres figures dans cette grotte qui malheureusement sont beaucoup plus discrètes ou très très abîmées. Donc les parois, comme vous pouvez le voir, ne sont pas toujours très très lisibles. Elles correspondent donc à des effacements qui sont à la fois dus à des périodes anciennes ou beaucoup plus récentes. Donc vous avez ce genre de figure où vous pouvez voir une silhouette animale, un nez assez épais qui correspondent donc à un animal qui est assez difficile à identifier. Est-ce qu'il s'agit de d'un bouquetin ou on a parlé de gazelle, enfin bon, on sait plus trop comment les qualifier au bout d'un moment, avec des traits donc assez profonds qui sont en partie d'époque paléolithique, préhistorique, mais qui ont été malheureusement repassés à maintes reprises. Donc ce sont des figures beaucoup plus difficiles à enregistrer, mais qui ont fait l'objet donc de relevés qui sont en cours de mise au net, et également qui ont été scannés en 3D, enfin, comme vous allez le voir plus loin. Donc des images qui ont été enregistrées avec les moyens les plus récents. Donc sur l'ensemble des parois de cette salle, vous avez autour donc, du grand plafond qui est figuré là au centre de la salle, vous avez une vue en développé. Et donc tout autour, vous avez sur les parois des figures beaucoup plus discrètes qui ont été relevées heureusement dans les années 40, mais qui ont été en partie perdues du fait du vandalisme et aussi du fait qu'à l'époque, effectivement, d'un point de vue topographique, on ne repérait pas toujours facilement les images. On n'avait pas les mêmes moyens qu'à l'heure actuelle, et puis à la fois en termes de publication et de technologie. Donc notre travail a consisté à redocumenter ces images, les retrouver, puis les relever avec les techniques actuelles. Donc là, vous avez une série d'images qui ne sont pas des chefs-d'œuvre de leur pariétal, hein, évidemment. Ce sont des images assez, assez frustres, avec ce cervidé, notamment, là, qui est gravé, lui, avec une technique donc, qui ne correspond pas du tout avec la technique du grand plafond, là, qui correspond à la gravure fine, qui peut faire dire aussi qu'elle correspondrait à des périodes beaucoup plus récentes que celles du grand plafond. Mais on y reviendra. Donc là, dans ce lacis, par exemple, de tracés digitaux et de tracés modernes ou anciens, on a pu retrouver notamment ce genre de figure qui peut correspondre à une silhouette de rhinocéros avec la corne là, le dos, puis le dos. Vous voyez, donc c'est des lambeaux d'images qui malheureusement sont en partie détruites, mais qu'il convenait de retrouver. Alors, des découvertes qui ont été faites il y a à peu près une vingtaine d'années, qui n'avaient jamais été relevées, que nous avons donc relevées. Donc là, vous avez une espèce de forme oblongue qui ressort de prime abord. Et il se trouve qu'en relevant précisément donc, cette image, et que vous pouvez voir là sur une photo beaucoup plus récente, avec des graffitis, toujours pareil, de part et d'autre, des gravures multiples, on a pu distinguer donc un faisceau de traits qui correspond à une image très très maladroite, mais qu'on met en correspondance avec le félin que vous avez vu tout à l'heure, une espèce de félin très schématique avec la tête en pince, qui est un corps énorme et des pattes de part et d'autre qui sont donc qui est représenté sur un dépendant, c'est-à-dire une retombée de parois qui fait face donc au grand plafond sur lequel trône, enfin règne entre guillemets le grand félin à tête de serpent. Donc je vais vous montrer un peu comment on procède d'un point de vue technique. Donc là vous avez un relevé ancien donc, qui correspond à la première campagne de relevé qui a été effectuée donc, en 1940, donc qui est une espèce de sanguine sur laquelle on peut voir donc, cet animal à tête à la fois de cheval et de rhinocéros, donc qui a été dessiné assez rapidement. Alors probablement une mise au net qui a été faite d'après photo. Moi je pense qu'ils ont beaucoup travaillé, on a très peu de documents en fait de l'époque, mais je pense qu'ils ont travaillé assez vite et probablement d'après photo. Pourquoi ? Parce que par exemple là, vous avez une image qui correspond à une espèce d'ours ou d'hippopotame entre guillemets. Bon, on dit hippopotame pour plaisanter, mais bon, c'est peut-être une image d'ours, enfin, un animal qui est assez volumineux. Donc là vous avez une prise de vue qui correspond, qui a été faite il y a 2-3 ans, et vous voyez l'animal de face, et là on se rend compte en dessous par rapport à deux relevés qui ont été effectués en 1940 par deux mains, c'est-à-dire André Glory et Paul Fitt, donc qui sont les deux personnes qui ont relevé les images. Vous voyez très bien que là vous avez une espèce de disproportion énorme au niveau de la tête, et là vous avez l'inverse, donc ça correspond probablement à des relevés qui ont été faits avec des clichés complètement divergents par rapport au point de vue normal qui est là et qui respecte au mieux les proportions de l'animal figuré. Donc les pauvres relevés qui demeurent de cette période-là, malheureusement, ils sont complètement, enfin pour résumer, complètement distordus par rapport à la réalité. D'où l'intérêt de reprendre avec les techniques actuelles, et notamment donc, la photographie et le scan 3D, tout cela. Donc là, je vais vous présenter rapidement la façon dont on procède pour faire un relevé en art pariétal en général. Enfin voilà, c'est la technique habituelle. Donc dans un premier temps, on fait une prise de vue photographique donc, de la paroi. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, c'est la prise de vue donc, du panneau des mêmes positives. Et en fait, cette prise de vue, elle est faite en essayant de respecter ce que l'on appelle le plan moyen, c'est-à-dire le meilleur point de vue qui correspond à la fois au point de vue de l'artiste et du visiteur. C'est-à-dire le point de vue qui déforme le moins la figure telle qu'on peut, on peut la voir. Donc ce point de vue, il est fait en respectant donc, une projection orthogonale et l'ensemble des plusieurs photographies sont effectuées, et l'ensemble constitue ce que l'on appelle une mosaïque, c'est-à-dire un déroulé de la paroi telle qu'elle peut apparaître sous cet angle idéal. Donc là, vous avez le résultat ensuite du relevé, donc qui est effectué sur un calque, comme on peut le voir sur cette photo. Donc vous avez la photographie donc, qui est effectuée donc, dans un premier temps, un calque donc, qui est posé sur la mosaïque photographique, et sachant que la photographie elle est faite soit à l'échelle 1, soit à l'échelle 1,5, soit à l'échelle 1/3, ça dépend de l'ampleur des figures à relever. Et donc sur site, la technique consiste à appliquer un calque dessus, et donc à observer la paroi et à en reproduire un maximum de détails au niveau de la figure en elle-même, mais également au niveau des reliefs et toutes les traces d'altération ou pas qui sont visibles à ce moment-là sur la paroi. Donc je reviens sur le relevé des mains. Donc vous avez là le résultat de ce que cela donne une fois mise au net par un logiciel infographique. Il s'agit vraiment d'une mise au net analytique. Plus, l'objectif ne consiste pas à faire un dessin de la paroi. C'est vraiment c'est une analyse à la fois technologique et graphique donc de la paroi telle que vous voulez le voyez là. C'est-à-dire on a donc les dessins de la main qui sont reproduits très précisément. Puis après, vous avez donc les gravures, etc., qui sont placées, qui montrent bien les superpositions que l'on peut trouver, donc les différentes périodes d'exécution à la fois des gravures et les altérations qui leur succèdent, enfin des peintures et les altérations qui succèdent. Donc il s'agit de mettre en évidence la chronologie d'exécution à ce moment-là. Donc voilà, une autre, donc Raphaël Bourillon qui relevait donc le félin que je vous ai montré tout à l'heure. Donc vous avez donc la première opération consistant à photographier l'image, la deuxième qui consiste donc à effectuer le relevé complet, puis après là on dégage donc la silhouette du félin tel que vous l'avez vu tout à l'heure. Alors l'intérêt de Baume-Latrone pour moi, au niveau de la reprise de l'étude, c'était aussi de profiter d'un acquis technologique qui est en action depuis maintenant quasiment 10-15 ans dans l'étude des grottes ornées, qui a hérité donc de technologies qui ont été employées dans un premier temps dans le nucléaire, l'étude des tunnels, enfin dans l'industrie et le bâtiment, qui correspondent donc au scanner 3D, au scanner laser 3D. L'intérêt de ces techniques, c'est qu'elles permettent de numériser en trois dimensions à la fois les reliefs d'une paroi, mais également les tracés qui sont faits dessus, enfin, toutes, à la fois les altérations, les reliefs, mais également donc, les dessins qui ont été faits dessus. Donc ces techniques-là, elles ont été utilisées, c'est bien connu, dans par exemple la numérisation de vestiges antiques, ou enfin, une des premières thèses de numérisation correspondait à une numérisation d'une partie de Cluny, puis après une reconstitution de l'ensemble de la cathédrale. Donc là, depuis 10-15 ans, dans un premier temps en Dordogne, on a testé ce genre de technique, et c'est vrai que dans le cadre de l'étude de la grotte Chauvet, pour laquelle je participe maintenant depuis une dizaine d'années, on a été assez proche de l'expérimentation à ce niveau, et notamment on peut le voir récemment, on l'a vu récemment dans un article en presse où l'ensemble de la grotte a pu être, grâce à ces techniques-là, numérisé. Alors sachant que ça permet aussi, ce genre de technique de cloner entre guillemets le site qui est numérisé, et donc par là même de pouvoir déplacer en laboratoire donc l'étude de ce genre de vestiges, et également de permettre au grand public de visiter des lieux qui ne sont pas accessibles, comme c'est le cas évidemment de cette grotte qui est protégée par le service régional d'archéologie de différentes manières et qui heureusement est fermée à toute intrusion qui pourrait finir de nuire à sa décoration. Donc nous avons utilisé plusieurs types d'instruments de type scanner depuis la reprise donc de cette étude. Nous avons choisi dans un premier temps de numériser l'ensemble de la salle Béguin dans laquelle se situent les vestiges d'art pariétal. Et pour cela, nous avons utilisé donc un scanner qui, lui, a une précision centimétrique, c'est-à-dire il y a plusieurs degrés de précision. Pour les reliefs, l'ensemble des reliefs de la grotte, on a choisi, enfin de la partie décorée, de faire ça avec une précision centimétrique dans la mesure où il s'agissait d'enregistrer l'ensemble des reliefs secondaires, entre guillemets. Mais dès qu'il s'agissait de numériser les parties décorées, on a décidé de descendre à une précision qui est de l'ordre du dixième de millimètre. Donc, ce qui permet vraiment une garantie de précision énorme, qui permet vraiment de véritablement cloner à ce moment-là les vestiges d'art pariétal. Donc pour cela, je vous épargne les détails, mais on a utilisé plusieurs types de scanners, des scanners volumineux qui, du fait de l'évolution de ces techniques-là, maintenant tiennent quasiment dans une main et correspondent à ce qu'on appelle des douchettes. Enfin, bon, il y a tout un vocabulaire à ce sujet. Alors, parallèlement à la prise de vue de type scanner, il faut malgré tout photographier les parois pour enregistrer également avec une précision la plus importante possible les vestiges d'art pariétaux. L'ensemble des photos sont ensuite assemblées pour coller au relief de la paroi qui a été cloné par les scanners. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Par exemple, le grand plafond que vous avez vu tout à l'heure, il a été couvert, il correspond à une couverture de 200 photos haute définition, qui fait qu'on a pu générer à partir de là ce que l'on appelle une texture, une mosaïque très précise, mais qui va correspondre à ce moment-là au relief de la paroi générée par le virtuel, et qui, à ma connaissance, était ce qui... qui était ce qui avait été le plus précis de fait dans le cadre d'une grotte ornée. Enfin, je n'ai pas, à ma connaissance, pour des surfaces aussi réduites, une telle précision de couverture photographique. Alors là, vous avez une photo d'un type de scanner donc, qui a permis de numériser la paroi à titre indicatif. Là, c'est le scanner qui était chargé donc de numériser les vestiges pariétaux. Donc c'est un scanner qui est maintenant un peu ancien. Et là, un scanner beaucoup plus récent, qui est un scanner à main, comme je vous le disais, qui lui permet d'être très malléable dans le cadre d'une grotte ornée, dans le sens où, comme vous l'avez vu, il y a beaucoup moins d'encombrement, c'est beaucoup moins dangereux pour les parois, et en même temps, l'autonomie est de plus en plus performante. Donc on est vraiment en parallèle, en 4-5 ans d'études de la grotte de Baume-Latrone, j'ai pu suivre l'évolution également des scanners. Il y a quasiment 3 générations de scanners qui ont, en quelques années, qui se sont succédés. On en est vraiment maintenant sur des choses très très réduites et qui offrent la même précision que les scanners les plus anciens que vous avez vus tout à l'heure. Donc c'était aussi intéressant, à travers cette étude, d'expérimenter ces trois techniques, et ces trois types de techniques. Alors l'objectif de cela était de aussi générer une fois donc les reliefs de la paroi rentrés dans l'ordinateur, plus des photos que vous avez vues. Les photos ont été plaquées donc sur les reliefs, et l'ensemble permettait de générer ce que l'on appelle des orthophotographies, c'est-à-dire ça correspond à des photographies qui sont métriquement exactes, qui correspondent à des projections comme des plans, des choses qui d'un point de vue de l'étude de l'art pariétal sont très précieuses, dans le sens où on a vraiment des images qui sont en tout point métriquement exactes et qui permettaient à ce moment-là de servir également de support au relevé tel que je vous l'ai présenté tout à l'heure. Donc là, on a un exemple de précision du pixel. Donc ce sont des relevés qui vont qui vont à une précision de l'orge, comme je vous l'ai dit, du dixième de millimètre, donc qui contiennent toutes les informations nécessaires pour lever les images. Donc, une fois ces orthophotographies générées, on se retrouve donc dans la phase classique, alors, qui correspond au relevé sur calque, dont vous voyez là sur la partie gauche, et donc la quatrième étape donc, correspond à l'enregistrement sur calque donc, de témoignages pariétaux, sachant que par rapport à la technique qui a déjà été exposée, on est là vraiment, on a plus la phase d'acquisition photographique mosaïque classique, on est là par rapport, on travaille sur une base de photographies générées directement par le modèle 3D. C'est un peu complexe à comprendre, mais ça offre par rapport à l'étude de l'art pariétal une précision que nous n'avions pas jusque-là. Donc. Et puis ça permet également de replaquer après le relevé sur la paroi virtuelle. Donc ça c'est un domaine qui est très nouveau. Donc là vous avez le résultat donc, du relevé d'un des mammouths dits crabe ou araignée. Hein, donc, vous voyez à quoi. Voilà. Et donc là, en résumé, donc la technique du relevé d'après orthophotographie, vous avez en bas en C donc le modèle numérique, en B donc l'orthophotographie qui est générée par le modèle numérique, et en A donc vous avez le résultat du relevé, qui correspond donc à une lecture à la fois stylistique et analytique des vestiges pariétaux. Alors une autre orthophotographie, donc vous voyez l'espèce de développement là, de part et d'autre des clichés qui sont en fait correspondent au développé de l'ensemble des photos que vous avez vues sous forme mosaïque précédemment et qui ont été tordues en fonction de la base numérique pour pouvoir justement développer au mieux et projeter d'une manière très exacte donc la figure. Donc le résultat du relevé, donc ce félin donc, qui fait environ 2,50 m et les deux mammouths qui sont situés juste en dessous, donc avec toutes les informations correspondant à l'exécution des images. Une autre orthophotographie. Et le résultat. Donc vous voyez que pratiquement l'ensemble du grand plafond est à l'heure actuelle relevé. Il nous reste trois images de mammouths qui sont situées dans la partie droite à finaliser. Donc ça fera l'objet d'une ultime période d'étude qui est prévue pour l'année prochaine. Alors le scanner 3D, une des utilisations du scanner 3D dans le cadre de l'étude de la grotte de Baume-la-Trône était pour moi aussi la possibilité d'utiliser le modèle numérique, c'est-à-dire le clonage virtuel de la paroi, pour pouvoir y placer plusieurs périodes de la grotte. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette grotte a énormément souffert du passage des hommes qui ont altéré donc, la paroi de différentes manières. Et il se trouve qu'à l'heure actuelle, donc, nous avons l'aspect de la paroi correspond à la paroi nettoyée suite au passage des laboratoires qui étaient chargés de cette opération. Donc on a un aspect de la paroi qui intègre aussi encore donc, certaines altérations de type griffade, etc., mais qui fondamentalement ne reflète pas l'aspect des images telles qu'elles ont été découvertes en 1940. Donc l'objectif, c'était d'utiliser l'ensemble des archives photographiques à notre possession et qui étaient aussi en possession des différents organismes ou chercheurs qui avaient pu travailler dans cette grotte et qui me permettaient de suivre malheureusement l'évolution de la paroi de la grotte. Donc là, vous avez des clichés en 1940, vous avez des clichés plus récents en 1946. Malheureusement, 70, on voit que la paroi est en train de souffrir. Vous avez des noirs de fumée, bon, des boulettes d'argile qui sont projetées de partout. Donc là, vous pouvez voir donc, à droite la représentation de félin telle qu'elle apparaît aujourd'hui et telle qu'elle était à l'origine. Donc on a un ensemble de bases photographiques, de bases de données photographiques qui permet donc, de comparer différentes périodes de la paroi ornée de Baume-la-Trône. Vous avez des mosaïques, donc mosaïques anciennes et mosaïques actuelles. Et à partir de là, on peut suivre notamment bon, sur les... On a une base de données qui correspond également à chaque image figurer. Donc vous pouvez voir qu'on peut superposer donc tous ces états, et on peut espérer donc à travers ça modéliser sur le même sur le dans le cadre d'une simulation virtuelle, on peut tout à fait espérer, et ça fera l'objet donc de la phase ultime de cette étude, on peut tout à fait visiter la grotte et la voir à différents moments de son évolution. Et on peut même espérer, donc, à travers ça, retrouver l'état originel de la décoration, telle qu'elle pouvait être au moins perçue au moment de sa découverte. C'est la confrontation de ces différentes périodes qui permettent, à un moment donné, d'espérer faire ce qu'on pourrait appeler une restauration virtuelle, sachant que c'est une opération qui est assez nouvelle dans le cadre de l'étude d'art pariétal, mais que j'ai conduite avec deux collègues du laboratoire Trace dans une grotte des Hautes-Pyrénées, la grotte de Marsoulas, dans laquelle la paroi a également souffert énormément de l'emprise des hommes, qui, grâce donc à l'étude croisée des scientifiques et l'apport des technologies du scan 3D, a pu être restaurée virtuellement et retrouver l'éclat qu'elle avait il y a 15 000 ans. Donc cette restauration a été faite en image de synthèse, et elle est même à l'heure actuelle visible sous forme de fac-similé au parc de la préhistoire de Tarascon-sur-Ariège. Et c'est vrai que c'est un peu l'objectif que j'essaye d'avoir dans un dernier temps par rapport à la reprise de l'étude de Baume-Latrone. Alors, pour finir, je vais proposer quelques éléments de comparaison avec la grotte Chauvet, parce que c'est un peu l'objet aussi de cette communication, essayer de rapprocher. On a plusieurs indices qui nous permettent de rapprocher la décoration de cette petite grotte du Gard avec celle de la grotte Chauvet, donc vous avez déjà entendu parler, je suppose, de différentes manières. Donc il y a des convergences qui sont à la fois thématiques, des convergences qui sont technologiques et des convergences qui sont également stylistiques. Alors ça, je vais vous montrer à quoi cela correspond. Dans les deux cas, enfin, la grotte Chauvet et la grotte de Baume-Latrone, on se rend compte que les espèces dites dangereuses sont beaucoup plus fréquentes que le bison ou le cheval, tel qu'on peut le voir dans les périodes beaucoup plus récentes de l'art pariétal. Donc là, c'est évident. Vous avez à gauche donc une représentation de mammouth de la grotte Baume-Latrone que vous avez déjà vue, puis à droite une représentation qui est beaucoup plus évidemment naturaliste de la grotte Chauvet. Vous avez un mammouth avec les deux défenses qui sont vues de face. Alors j'ai pris cette image justement pour vous montrer que le système de représentation est un peu plus naturaliste dans le sens où on a des pattes mieux formulées, etc. Mais on a déjà des points communs à travers la figuration cubiste, entre guillemets, des faces de vue de face, comme on peut le voir donc là et sur d'autres figures de la grotte de Baume-Latrone. Mais bon, là, la convergence thématique correspond à bien montrer que le mammouth, à la fois à Chauvet et à Baume-Latrone, correspond à l'espèce majoritaire, la plus fréquemment représentée. Donc c'est déjà un premier élément. Et dans les deux grottes également, la part belle est faite au lion, hein, donc qui trône au centre du sanctuaire de Baume-Latrone, qui est c'est plus par son ampleur que par la quantité de figures qu'il est mis en évidence. C'est la figure centrale de la salle Bégouin, de la salle des peintures de Baume-Latrone, et c'est également la figure la plus grande. Elle est au centre de la composition, donc alors qu'à Chauvet, bon, vous avez des dizaines de félins qui eux-mêmes sont également au centre de la composition, surtout au sein même de la salle du fond, où là carrément moi je fais vraiment l'hypothèse qu'on est dans une salle qui est quasiment consacrée à ce prédateur, hein, qui est pour, mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc un second argument qui permet de faire une convergence au niveau de la thématique entre les deux grottes, donc la présence prépondérante donc du félin à des places de choix, de l'image du félin à des places de choix. Alors des convergences technologiques et stylistiques, donc là nous avons dans les deux cas des représentations de mammouth à Chauvet et à Baume-Latrone qui sont exécutées dans le même état d'esprit, sauf qu'à Chauvet on a donc des tracés digitaux qui sont faits à la main, mais la main sert à creuser le calcaire, donc calcaire qui est très friable, donc la représentation est faite en creux, alors que évidemment à Baume-la-Trône, la main sert à déposer une matière, mais le geste correspond dans les deux cas. Donc vous pouvez le voir. Donc là vous avez un relevé, donc qui est un relevé de la grotte Chauvet inédit, là, qui a été fait avec en collaboration avec Jean-Claude. Vous pouvez voir donc des images qui nous font vraiment penser à la grotte à Baume-la-Trône. Et donc ces grands gestes, donc de doigts, là, ce passage des doigts, la schématisation donc des trompes, des membres un par pair, toujours pareil, un profil absolu, l'expressivité donc qui est très visible au niveau de la queue, bon, de la tête relevée, enfin, comme on l'a déjà vu. Et donc si on compare les relevés, on voit très bien qu'on sent bien qu'on est dans le même univers de représentation, les mêmes styles de représentation, sauf qu'on a donc voilà, dans un cas on a donc un enlèvement de matière, donc du tracé digité qui enlève la matière, et là plutôt un dépôt de matière, mais la gestuelle des deux correspond. Donc là, au niveau des mammouths donc de la grotte Chauvet, on a un grand panneau qui correspond à ce qu'on appelle les mammouths raclés, qui sont des figures qui font quasiment 2 mètres de haut. Là. Donc ce sont des silhouettes de mammouths. Vous avez un mammouth là, qui est de profil, qui lève, on a l'impression qu'il lève l'arrière-train. Vous avez la patte qui est avant là, vous avez la trompe, la tête, le dos, la bosse du dos, le dos. Et de part et d'autre, vous avez donc d'autres mammouths qui font évidemment penser aux mammouths de Baume-la-Trône, qui sont là également des tracés digités avec cet enlèvement très fort de matière et ces gestes très expressifs. Voilà. Alors, au sein même de la décoration du grand plafond. Donc on revient sur cette image plutôt étrange, énigmatique, avec cette tête, cet animal dit composite, qui peut correspondre à la fois à un cheval ou un rhinocéros avec des oreilles écartées. Il se trouve que la figuration de ces oreilles écartées de part et d'autre de la tête, ça correspond très exactement à un schématisme, enfin une caractéristique stylistique qui est propre aux figurations de rhinocéros, comme voilà, de la grotte Chauvet. Donc c'est les oreilles qui sont systématiquement représentées sur le rhinocéros dans la grotte Chauvet. Le rhinocéros étant une des représentations les plus fréquentes, donc il y a possibilité de comparer donc ce type d'animal avec cette image donc de Baume-la-Trône. Donc on voit bien que on a là aussi des éléments qui pourraient, au moins au niveau de la figuration des oreilles, nous faire penser, parce que ça, c'est des choses qui sont assez... la vue des oreilles de part et d'autre du crâne, ce sont des choses qui sont déjà très rares au niveau de l'art pariétal, et cette façon de les styliser, c'est vraiment spécifique à la grotte Chauvet. Le seul autre site où on peut voir ce genre de stylisation provient de la grotte Coliboia, en Roumanie, où on a une figure de rhinocéros de ce type, donc une grotte roumaine qui a été découverte il y a 2-3 ans maintenant, et qui récemment a bénéficié de datation carbone 14 qui correspondent complètement aux dates de la grotte Chauvet. Donc on a un détail stylistique qui est quand même assez fort et qui va dans le sens là aussi d'un rapprochement entre la Trône et Chauvet. Alors, en 2010, on a découvert, c'est vrai qu'en reprenant l'étude de Baume-la-Trône, on avait peu d'espoir de vraiment découvrir des choses au niveau des sols qui ont été vraiment décaissés, qui ont été ravagés à maintes reprises, à la fois naturellement et malheureusement artificiellement. Et il se trouve que donc Philippe Galland, qui représente le service régional d'archéologie, a découvert un charbon de bois au niveau de ce plancher stalagmitique, on le voit en tout petit. Et c'est vrai que ce charbon de bois nous permettait peut-être, un charbon qui est situé donc à environ une dizaine de mètres en contrebas du grand plafond, qui est peut-être un charbon qui a déboulé probablement de la zone des mêmes positives que vous avez vues tout à l'heure et qui correspondrait donc au passage des hommes, à un moment donné de la chronologie de cette cavité. Donc ce charbon de bois est en cours de datation. La datation est imminente et fera l'objet probablement de ces prochains mois donc d'une publication. On ose espérer qu'on sera à ce moment-là synchrone avec les dates de la grotte Chauvet, ce qui permettrait d'afficher un argument supplémentaire allant dans le sens, dans l'hypothèse d'une grotte donc dite orignacienne, correspondant donc à environ une période qui va entre 30 et 32 000 ans. Quoi. Donc là, vous voyez le charbon donc, de bois. Alors, petite parenthèse, l'art pariétal à Languedoc, c'est aussi... d'autres petits sites, et notamment le site de la grotte d'Aldenne qui a été étudié à maintes reprises et qui a fait l'objet d'une reprise d'études par Paul Lambert, Philippe Galland et d'autres chercheurs. Et il se trouve donc en 2005, cette grotte qui présente des gravures également de carnivores et probablement de félènes, vous en avez une, c'est une grotte qui est située donc dans l'Hérault, dans les gorges de la Cesse, dans le Minervois. Vous avez une petite des gravures de carnivores et a priori de félins et d'ours qui sont assez comparables aux représentations de carnivores de la grotte Chauvet. Donc il y aurait donc dans notre région au moins cette grotte qui à l'heure actuelle peut être vraiment rapprochée avec certitude de la grotte Chauvet. La Baume Latrone serait peut-être la seconde. Là on a eu donc une datation qui a été faite donc au moment de la reprise de l'étude et qui affiche donc des dates aux alentours de 30 000 ans, donc qui sont complètement synchrones avec l'art le plus ancien de la grotte Chauvet, qui est compris entre 33 et 29 000 ans, enfin 32, 29 000 ans. Alors, bon, petit tableau récapitulatif que j'ai fait assez rapidement pour essayer de rapprocher donc, ces trois sites, finalement. Hein. Donc, deux sites languedociens et un site ardéchois. Et donc, on voit qu'il y a vraiment, dans tous les cas, une convergence au niveau d'Aldenne, de Baume-Latrone, avec la grotte Chauvet. Les différences entre Aldenne et Baume-Latrone sont surtout de l'ordre technologique. Hein. C'est que Aldenne, c'est plutôt exclusivement de la gravure, alors qu'à Baume-Latrone, on a cette technique particulière de tracé polydigité, comme on le dit parfois, exécuté à l'argile, sachant aussi également qu'il y a tout autour des figures gravées et des figures dessinées. Donc voilà, bon, des rapprochements qui ont été faits, qui correspondent à la fois par des dates directes. Alors, la grotte Chauvet, à l'heure actuelle, c'est la date la mieux datée. Pour tout l'art pariétal qui bénéficie de le plus de dates directes, c'est-à-dire de dates effectuées à même les images, et puis des dates, donc cette date indirecte d'Aldenne qui correspond bien, vous voyez, et donc cette date indirecte que nous espérons pour ces prochains mois, et donc qui pourrait aller dans le sens de nos hypothèses qui sont donc à chantier, hein, comme je voulais. Et déjà dit. Alors, un petit clin d'œil aussi pour vous montrer que non seulement il y a des rapprochements à différents niveaux, mais moi, ce qui m'a toujours surpris en sortant des deux grottes, c'est que finalement, on avait les mêmes points de vue. Donc, en haut, en sortant de Baume-Latrone, on est face au méandre du Gardon, tel que vous le voyez là. Et en bas, donc, on est, en sortant de la grotte Chauvet, on est face à l'ancien méandre donc, de l'Ardèche qui passait là et qui maintenant passe sous le pont d'Arc qui est situé juste en arrière. Mais bon, vous voyez bien les similitudes assez troublantes des points de vue que pouvaient avoir les artistes paléolithiques de l'époque. Donc pour moi, on est probablement dans quelque chose qui fait sens. Parce qu'effectivement, comme le dirait Jean-Claude, donc, mon collègue Jean-Claude, qui est spécialisé dans la rupestre mondiale, donc qui a l'habitude de voir les sites de par le monde, il est toujours frappé par la correspondance entre la localisation des sites et des points de vue ou des situations exceptionnelles ou spectaculaires ou géologiques. Donc là, on sent bien qu'on est là aussi dans le même état d'esprit, entre guillemets, quoi. Bon, là, un petit dessin en forme de clin d'œil que j'avais fait pour reconstituer donc, la paroi. Alors, je vais juste finir rapidement en vous montrant un petit film assez court où vous allez voir donc, une visite résumée de cette grotte. Hein. Donc là, vous avez donc le méandre dont je vous ai parlé. Donc on est un peu plus, on n'est pas tout à fait dans l'axe par rapport à la sortie de la grotte. Donc là, vous avez l'équipe telle qu'elle était présente il y a 2-3 ans. Enfin, c'est une campagne, je crois, c'est 2010, il me semble, 2009 ou 2010. Donc une des premières années de l'étude. Vous avez le porche d'entrée. Et là, donc, on suit mes collègues hein, qui s'engouffrent donc dans la galerie, qui descendent dans le grand puits. Bon, il y a toute une succession donc, de passages à la fois sous forme d'échelle ou d'escalier qui ont été bâtis suite à la découverte. Et donc là, on arrive donc dans la salle ornée avec donc, le panneau des mains qui est visible, que vous avez entreaperçu, et donc l'arrivée face au grand plafond. Donc c'est là vous avez bon, Jean-Claude, mon collègue préhistorien, qui était venu visiter la grotte en fait avant le nettoyage. Il avait fait partie des personnes qui avaient appuyé donc qui avaient diagnostiqué le nettoyage donc, de cette paroi. Donc il n'était pas revenu depuis. Donc c'était assez intéressant d'avoir ces réactions, dans la mesure où, en parallèle de l'étude, comme vous pouvez le voir, bon, étant moi-même réalisateur, je pratique un archivage des travaux, comme je le fais auprès des autres collègues. Bon, je me suis permis moi-même ou avec mes collègues de filmer pour avoir une archive de cette étude. Donc on filme chaque année systématiquement l'étude de la grotte. Donc là, vous avez donc des vues du grand plafond. Hein. Donc, comme vous voyez, c'est un art vraiment en volume. Donc, il faut imaginer, là, on est avec un éclairage frontal, mais il faut imaginer ce que ça pouvait donner donc, avec ces éclairages paléolithiques fluctuants qui permettaient donc, de vaciller et d'animer quelque part les figures. Donc, des images, c'est beaucoup plus difficile à lire, mais on voit surtout les graffitis et toutes les altérations inimaginables. Et là, donc vous avez le photographe donc, qui était chargé de faire la couverture intégrale de l'ensemble des images et de les étalonner, c'est-à-dire de respecter au mieux à la fois les textures et la colorimétrie des parois. Donc il a couvert avec le maximum de précision possible l'ensemble des parois pour donc générer ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire cette espèce de texture de peau que l'on replace sur le modèle numérique qui est scanné en parallèle. Donc là, du relevé donc, qui est effectué sur calque, hein, comme vous voyez, donc, c'est avec soit des feutres, soit des stylos encre type rotring, avec une encre qui reste accrochée sur les calques, dans la mesure où on est dans un milieu très humide, donc il faut vraiment qu'on utilise des matériaux qui résistent donc, à l'humidité. Et donc le résultat de ces relevés, dont vous voyez la paroi qui est entre 2,50 m et 3 m de haut dans ces parties les plus hautes. Et là, vous avez donc une des dernières campagnes de scanner avec donc ce scan à main qui est constitué de deux objectifs qui correspondent à des mini-caméras qui se croisent et qui permettent, du fait de l'écart, de donner une vue, enfin, je schématise un peu, mais une espèce de vue stéréoscopique qui, une fois assemblée dans un logiciel, etc., génère donc un modèle en trois dimensions de la paroi ornée. Donc là, vous voyez le passage de cette technologie, donc des technologies qui sont en cours d'évolution, donc on va arriver très très rapidement sur des outils gros comme des appareils photo. Enfin, c'est en cours, c'est phénoménal ce qui est en train de se passer. Donc des outils qui permettent, bon là, l'occurrence de scanner une grotte ornée, mais qui peuvent permettre de cloner cette salle en maintenant une demi-heure. Quoi. Enfin, vous pouvez avoir des choses extraordinaires. Enfin, l'archéologie bénéficie de plus en plus de ce genre de techniques. C'est vraiment c'est formidable dans le sens aussi où c'est l'objectif ultime de l'utilisation de ces techniques étant vraiment d'enregistrer avec le maximum de précision, justement pour éviter au maximum les séjours en grotte qui sont toujours difficiles parce que ce sont des milieux confinés, difficiles d'accès, mais surtout qui évitent justement toute forme d'altération et qui peuvent faciliter justement l'absence de visite, comme c'est le cas notamment dans la grotte Chauvet où évidemment il est très difficile d'accéder. Donc le fait de générer un modèle numérique permet de déplacer la grotte, de la cloner et de la mettre à disposition des visiteurs. Bon, c'est un peu l'objectif que j'aimerais atteindre à travers la fin de cette étude, c'est-à-dire générer, comme vous le voyez là sur cet écran, donc des nuages de points qui après prennent vie et permettent donc d'arriver à une vue virtuelle de la paroi. Alors, sachant qu'évidemment, en parallèle de ça, ce clonage en trois dimensions de la grotte peut aussi permettre de faire des facsimilés, ce qu'on appelle des facsimilés, comme vous pouvez le voir avec Lascaux ou avec Chauvet ou d'autres grottes qui sont actuellement fermées au public, mais qui sont présentées sous forme de reconstitution. Donc, le scan 3D peut aussi permettre ce genre de choses. Donc, c'est un outil qui sert à la fois aux scientifiques, mais également qui peut aider à la communication de l'archéologie et de ce type de recherche. Donc là, vous voyez, on scanne une partie de cette figure gravée qui, tour à tour, baptisée antilope, bouquetin, et qui échappe elle aussi à l'interprétation. Ça peut être aussi un cheval, mais bon, c'est quelque chose d'assez assez compliqué. Donc vous avez le faisceau laser des deux objectifs qui se croisent, comme vous pouvez le voir. Alors, une dernière séquence très courte où vous allez voir donc les premiers résultats du scan. Donc là, vous avez la... C'est un peu sombre. Le scan donc, de la salle Béguen donc, qui est reconstituée. Donc, vous voyez, bon, là, c'est une vision en basse définition. Hein, le fichier réel est très lourd, mais bon, là, c'est pour le visionnage de ce soir, donc on a fait un calcul réduit. Donc, vous pouvez voir donc, l'ensemble de la salle. Et alors, l'intérêt aussi de ce genre de reconstitution, c'est que ça peut permettre, dans un deuxième temps, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de replacer donc, des points de vue anciens pour montrer de quelle manière le contexte a évolué. Donc l'objectif, donc là il s'agit d'un brouillon, hein, mais vous pouvez voir de quelle manière on peut après utiliser la documentation ancienne, là, en l'occurrence avant, après restauration, voyez, pour présenter sur le même modèle numérique, donc en virtuel, plusieurs états de la paroi. Donc ça, c'est l'objectif ultime. Donc au terme de cette étude, l'ensemble de la grotte pourra être vu à différents moments de sa vie, c'est-à-dire depuis sa découverte jusqu'à notre époque, en passant par les périodes d'altération, tout ça pour voir, essayer d'étudier après le laboratoire de quelle manière donc, la paroi évoluait, sachant que ça peut aussi servir d'un point de vue conservatoire et archivistique à d'autres scientifiques. Voilà. J'ai terminé.
L'Agora des savoirs. Des conférences ouvertes à tous. Une initiative de la ville de Montpellier en partenariat avec Divergence FM.